Marc Lazare.
Oui, je dirais que moi aussi, je partage l'appréciation que vient de faire Max Gallo. C'est-à-dire que quand on vous lit, on a une forme de jubilation par rapport à un discours, en tout cas chez les intellectuels et dans un certain nombre de médias, sur les États-Unis. Et vous montrez avec, je veux dire, beaucoup d'acuité, d'ironie aussi, l'illogisme de l'anti-américanisme, puisqu'on leur reproche systématiquement, et vous le démontrez à longueur de page, une chose et son contraire. Ils sont protectionnistes, et on les critique pour cela, et au contraire ils sont libre-échangistes et on les critique exactement pour la raison posée. Ils refusent d'intervenir dans tel coin du globe et on les critique pour cela, et inversement quand ils interviennent on les critique par leur intervention. Donc ceci est effectivement tout à fait intéressant, et vous, d'autant plus que vous montrez très bien que cet anti-américanisme repose très fréquemment sur une ignorance énorme des États-Unis, sur une méconnaissance absolue de ce pays, et vous faites évidemment le devoir de corriger cela par une enquête, par des chiffres qui vous donnent tout à fait raison. Alors, cela dit, moi je poursuivrai la réflexion de Max Gallo sur l'anti-américanisme, sur la critique des États-Unis, en particulier au cours de ces derniers jours, car j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une tentation dans l'administration américaine d'agir sans prendre en considération les autres, et en l'occurrence de déclencher une intervention en Irak face à ce que les Américains... une attaque important, une attaque. Ils sont en guerre. Nous, on parle d'attentat, eux, ils parlent d'attaque. Et je crois qu'ici, le mot anglais a véritablement toute sa puissance. Or, je crois que c'est précisément par l'importance des réactions européennes, par le fait que l'ONU, y compris par son secrétaire général, est intervenu, qu'il a contraint, me semble-t-il, en dehors des débats qui se déroulent dans l'administration américaine, George Bush a adopté un discours légèrement différent par rapport aux positions qu'il avait prises auparavant. Deuxième point, c'est sur le sentiment anti-américain. Vous le dites à un moment donné, je crois que c'est très vrai. Je crois que cette obsession anti-américaine est l'obsession d'une minorité en France. Je laisse pour le moment de côté dans les autres pays européens. Mais on est obnubilé par l'attitude de, j'allais dire, d'éclairs, des intellectuels. Or, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on voit les sondages, lorsqu'on réfléchit un peu, même historiquement, quand on voit les sondages de l'IFOP des années 50, on voit que l'écrasante majorité des Français ont plutôt une bonne image des États-Unis. Alors, ils ont bien sûr des reproches. Ces Américains se comportent très mal, ils sont vulgaires, n'est-ce pas, ils ne savent manger que leur McDonald's, ils sont un peu arrogants, mais globalement, il y a même une attraction, il y a une fascination, et pour un pays, un autre pays, si là on sort de la France que nous aimons tous autour de cette table, en Italie, c'est évident qu'il y a une passion favorable pour l'Italie et que les intellectuels sont dans une position minoritaire. Or, ce qui est frappant, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est le phénomène suivant. Cet anti-américanisme, me semble-t-il, minoritaire dans l'opinion, disons, populaire, pour aller vite, s'oppose à un anti-américanisme très diffus dans d'autres zones du monde, l'Amérique latine, les pays arabes, qui là touchent vraisemblablement profondément les masses populaires, comme on disait à une certaine époque. Et je crois qu'il faut bien s'interroger sur ce ressentiment des États-Unis se diffuse aujourd'hui à travers le monde, parce qu'elle repose sans doute sur une perception erronée des États-Unis, mais qu'en même temps, elle est à l'origine d'un certain nombre de mouvements. Le terrorisme, dites-vous, n'est pas le fait des pauvres, mais il est applaudi par les pauvres dans une partie du monde. Et comme vous le dites très justement, il est le fait des bourgeois, mais en même temps, il est considéré comme quelque chose qui venge une série d'humiliations. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de l'humiliation, du ressentiment, eh bien, je crois que ça continuera d'alimenter cet anti-américanisme populaire.
Oui, Jean-François Sorvel. Pour ce qui est de l'élitisme, en effet, les sondages, encore aujourd'hui d'ailleurs, prouvent. Il se trouve que ceux qui. C'est le monde politique, et le monde médiatique et le monde intellectuel qui prévalent, qui font l'opinion, le monde journalistique et qui, par conséquent, évidemment, donnent le ton dans ce domaine. Les contradictions, alors elles sont très nombreuses, je cite plusieurs exemples. Par exemple, quand on reproche aux États-Unis d'être unilatéralement favorable à Israël, sans tenir compte des Palestiniens, on oublie d'abord que si l'État d'Israël existe, c'est à cause de l'antisémitisme européen. Et deuxièmement, que toutes les démarches de rapprochement entre les Arabes et les Israéliens, et plus particulièrement les Palestiniens et les Israéliens, depuis 1978, les accords de Camp David qui ont amené au traité de paix avec l'Égypte, ont généralement découlé d'initiatives américaines. et encore dernièrement, tout ce qui est les accords d'Oslo, évidemment, maintenant sont tout à fait en état de naufrage, mais à l'origine, c'était quand même les États-Unis qui poussaient à ça, la poignée de main entre Arafat et Begin a eu lieu à la Maison Blanche, etc. Bon. Après cela, si vous voulez, donc je crois que moi je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut nuancer beaucoup de choses. Et alors, pour ce qui concerne les foules, les masses populaires du monde pauvre, alors là encore, l'anti-américanisme en Amérique latine aussi, et beaucoup le fait de la classe politique et des intellectuels, mais de nouveau c'est contradictoire, parce que les mêmes intellectuels qui déversent à longueur de page des diatribes anti-américaines sont les premiers à courir aux États-Unis dès qu'on leur offre un poste dans une université et qu'ils y passent souvent la moitié de leur vie. Et quant à la population, il faut bien voir qu'évidemment elle est, si vous voulez, dans certains cas c'est l'idée d'attribuer l'échec de certains pays, sur le plan économique notamment, à d'autres. C'est particulièrement sensible en Afrique subsaharienne. Évidemment, les dirigeants de l'Afrique subsaharienne sont très largement responsables du triste état de cette partie du continent, mais ils préfèrent que leur population pense que ce sont les États-Unis et les Européens qui sont les vrais coupables.
Jean-Claude Cazenavar.
Oui, moi aussi, j'éprouve toujours la même jubilation en lisant Jean-François, mais en plus, dans ce livre, si vous voulez, j'ajouterais un sentiment qui me peine, c'est que le livre m'a accablé, parce que, au fond, ce n'est pas tellement l'existence de l'anti-américanisme qui me gêne, si j'ose dire, il est naturel, les États-Unis sont un pays démocratique, tous ceux qui ont des aspirations élitistes ou aristocratiques critiqueront les États-Unis, c'est un pays capitaliste, favorable au libre-échange, les gens qui sont socialistes ou anti-libre-échangistes critiqueront les États-Unis, c'est une nouvelle grande puissance, les anciennes grandes puissances critiqueront les États-Unis. J'ai rencontré avant-hier à Lyon un jeune Américain sorti d'une grande université qui m'a beaucoup impressionné parce qu'on discutait de ce problème politique et il m'a cité une phrase de La Rochefoucauld. Il m'a dit « Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. » Ce qui est effectivement tout à fait la situation des...
L'article de Kagan que vous publiez dans le commentaire.
C'est exact, mais enfin, cet Américain, lui, connaît La Rochefoucauld. Les commentateurs des États-Unis n'ont pas le même degré de sophistication. Et alors, continuons sur les sources d'anti-américanisme. C'est une nouvelle grande puissance et nous sommes d'anciennes grandes puissances. Et il y a bien évidemment un ressentiment très profond. Et donc le fait que ce soit les élites qui soient plutôt anti-américaines n'est pas très étonnant parce que ce sont elles qui traduisent le mieux le ressentiment. Alors, je ne sais pas si la démographie et l'alphabétisation auront une grande influence bienfaisante sur l'évolution de l'humanité, mais je suis sûr qu'ils ne supprimeront pas le ressentiment et que même d'une certaine façon, ils accroîtront le degré de ressentiment. Et quand on éprouve du ressentiment, il faut essayer de se contrôler. Et ce qui est terrible dans l'anti-américanisme, c'est, si j'ose dire, sa mauvaise qualité. C'est-à-dire que Jean-François insiste à beaucoup d'endroits dans son livre. Il dit, si vous voulez vraiment critiquer les États-Unis, eh bien, lisez les auteurs américains. Si vous voulez critiquer l'attitude des États-Unis à l'égard de la Pologne de 1944 au partage, à l'acceptation du partage de l'Europe, eh bien, honnêtement, il est beaucoup mieux exprimé dans les discussions américaines de l'époque et qui ont suivi qu'il n'était exprimé dans les discussions françaises. Si vous voulez critiquer la politique américaine au Vietnam ou le débat sur le Vietnam, le degré de sophistication des livres américains sur la guerre du Vietnam, la part du militaire et du politique, etc., vous les trouvez dans des livres américains, vous ne les trouvez pas dans des livres européens. Si vous voulez critiquer la politique du Fonds monétaire international ou la politique de la Banque mondiale, ce qui est tout à fait légitime, qui est en partie politique, en partie inspirée dans les États-Unis, la bibliographie est une bibliographie américaine. Elle n'est pas une bibliographie européenne. C'est navrant. Les Européens se précipitent sur le livre de Stiglitz, qui est intéressant et discutable. Mais enfin, quel est l'Européen qui a fait un livre équivalent pour critiquer le Fonds monétaire? Autrement dit, dans cet immense ressentiment des clercs, je dirais d'une partie des clercs, parce qu'il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution. Mais dans ce ressentiment des clercs, il devrait être attentif à la qualité de leur critique, et on peut parfaitement critiquer les États-Unis, être en désaccord avec eux, et donc l'améliorer. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que malgré tout, si on prend les 50 dernières années, L'anti-américanisme va ressurgir aujourd'hui, surtout s'il y a une intervention américaine en Irak et au Moyen-Orient, compte tenu du poids qu'exerceront les États-Unis dans cette région, et compte tenu de toute une série d'autres régions qui jouent en Europe. Mais la compréhension des États-Unis s'est quand même aussi pas mal développée en France. Si on prend, en reprenant les sources de l'anti-américanisme, l'esprit démocratique ayant progressé, malgré tout, les gens d'aspiration démocrate sont plus facilement pro-américains. D'ailleurs, je constate que les gens les plus anti-américains en France sont des gens qui, au fond, philosophiquement, ne sont pas fondamentalement libéraux ou démocrates, et qu'il y a une coïncidence du pro-américanisme et de l'esprit démocratique. Si on prend la science, le monde scientifique, il y a 40 ou 50 ans, on trouvait des prix Nobel français pour signer n'importe quoi, sur les États-Unis. Aujourd'hui, ça serait très difficile. Tous les scientifiques français, les physiciens, les chimistes, les biologistes, etc., vivent dans le monde scientifique. Or, le monde sur la science moderne est très largement dominé par les États-Unis, tout simplement parce qu'ils ont eu des institutions qui ont développé la science, et mieux que les Européens. S'ils ont réussi, c'est un problème d'institution et de capacité. Et les scientifiques français, les scientifiques européens d'aujourd'hui, connaissent les États-Unis et ne diraient pas n'importe quoi sur les États-Unis. De même, tout ce qui est la modernité économique, les dirigeants d'entreprises, il y a des entreprises françaises, il n'y a pas que M. Messier, il y a des entreprises françaises comme Michelin ou comme les ciments Lafarge qui ont parfaitement réussi aux États-Unis. Le monde industriel français aujourd'hui connaît les États-Unis et est en osmose avec les techniques et donc dans toute cette partie, autrement dit, les élites modernes, les élites scientifiques, les élites démocratiques n'éprouvent pas cette espèce de ressentiment diffus qu'on trouve dans le monde, dans la caricature moderne, dans la caricature médiatique, mais qui n'est pas heureusement le sentiment dominant des élites françaises et européennes.
Juste un mot pour préciser cet anti-américanisme en France, notamment que vous dites d'ailleurs dans votre livre, parce que effectivement il est lié à l'esprit antidémocratique, et il est lié, comme vous le dites, à l'héritage du communisme en France, qu'on a négligé beaucoup. Je veux dire, le PCF est mort, mais il a laissé derrière lui une culture qui imprègne la gauche. Vous le montrez aussi qu'il est cet anti-américanisme, le fait des divers populistes, d'extrême gauche mais aussi d'extrême droite, d'une partie de la droite, du souverainisme et de nombreux courants chrétiens aussi, dits de gauche. Mais ce que vous montrez de nouveau, alors là, de très inquiétant, c'est la progression de l'islamisme radical. Et même si je ne suis pas d'accord dans votre livre, où vous avez tendance, me semble-t-il, peut-être à aller un peu vite en disant, enfin, j'ai cru lire parfois que quasiment tous les immigrés pouvaient se reconnaître dans l'islamisme radical, mais je suis sûr que ce n'est pas ce que vous voulez dire, mais il y a quelques phrases, me semble-t-il, un peu rudes de ce point de vue-là. Ce qui est frappant, c'est effectivement qu'il y a des convergences objectif, comme disaient les communistes à une certaine époque, entre le vieux fond anti-impérialiste lié au marxisme et une partie de l'islamisme radical. Or, ça me frappe beaucoup parce que le livre de Taguieff nous avait montré aussi qu'il y a une sorte de convergence aujourd'hui entre cet islamisme radical et la gauche de la gauche en France pour déboucher sur une nouvelle judéophobie. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et de ce point de vue-là, la France ici connaît, la société française risque de connaître des heures particulièrement difficiles dans un certain nombre de secteurs minoritaires mais influents de l'opinion.
Pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, celui de vos livres auquel celui-là m'a fait le plus penser, c'est La connaissance inutile. La manière, Jean-Claude Casanova le soulignait à sa façon, cette sorte de bombardement de faits, Max Gallo en parlait aussi, par lequel vous procédez, qui normalement, en effet, doit être la méthode d'un éditorialiste que vous êtes, c'est-à-dire à la fois d'informer et d'analyser l'information qu'il donne, en creux, ce bombardement de faits donne l'image d'une société, quand vous reprochez à vos adversaires d'avoir ignoré tous les faits pourtant accessibles dont vous parlez, pourtant très facilement accessibles, encore plus facilement accessibles aujourd'hui à la fameuse heure de l'Internet, ce bombardement d'informations que vous reprochez à vos adversaires, aux anti-américanistes obsessionnels de ne pas connaître, est en réalité une volonté de ne pas connaître. On a l'impression qu'au fond, la devise de la République, en tout cas du pays, sinon la République, devrait être « je veux pas le savoir ». Et je voulais vous demander si, comme en plus de connaître les États-Unis, vous connaissez nombre d'autres pays et vous en maîtrisez les langues et donc la presse, si cette attitude de « je ne veux pas le savoir », qui est aussi peut-être à rapprocher de cette maxime terrible que Jean-Claude Casanova nous a citée tout à l'heure et dont je crains qu'en effet elle marque, elle puisse être mise sur la pierre tombale de l'Europe, en tout cas de la France, est-ce que cette attitude de « je ne veux pas le savoir » vous paraît particulièrement forte en France? Et si oui, qu'est-ce qui pour vous, justement, expliquerait que les Français aient tout particulièrement cette attitude?
Oui, l'étape est plus forte, évidemment. Il y a, dans la presse espagnole ou dans la presse italienne, il y a une certaine tendance aussi à l'anti-américanisme systématique, mais pas uniquement. Les grands éditorialistes du Corriere et même de la Repubblica, très souvent, nuancent tout cela, le contredisent. Je pense à Giovanni Sartori, à Sergio Romano, etc. Mais, en effet, c'est plus marqué en France qu'ailleurs. Ouais. Pas de doute, il y a moins de diversité.
Alors, ça ne s'explique pas.
Le niveau, par exemple, par rapport à l'Angleterre, le niveau d'information de la France est très inférieur. Alors, c'est un peu normal, les Anglais parlent la même langue, mais quand même.
Les Anglais, ce qui est, en effet, comme vous le dites, plus normal que pour les Européens, mais en général, par rapport même à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Espagne essentiellement, et même à l'Amérique latine, parce qu'un journal comme le grand journal brésilien Estado de São Paulo n'est pas du tout systématiquement anti-américain, au contraire, il essaye de raisonner, de nier les faits. Je voulais apporter une petite précision à propos des immigrés. Je ne crois pas dire exactement que tous les immigrés adhèrent à l'extrémisme islamiste. Je veux dire simplement quand on entend certains porte-parole des immigrés musulmans, comme par exemple M. Boubacar, qui est directeur de la mosquée de Paris, dire la majorité des immigrés sont contre l'extrémiste islamiste. Alors, je demande simplement, mais où les voit-on? Pourquoi est-ce qu'ils ne manifestent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne défilent pas? S'il y en a 4,5 millions, s'il y en a seulement 500 000 qui sont pour le terrorisme et les autres contre, les 4 autres millions, on pourrait les voir un peu plus souvent dans les rues, n'est-ce pas, pour manifester. Je veux dire, ils sont vraiment très discrets.
Oui, là encore, d'ailleurs, on peut souligner que sur ce sujet-là, notre grande capacité à remplacer l'information par l'idéologie fait que les journaux ne nous éclairent pas sur la position des travailleurs immigrés en France. D'ailleurs, nous ne sommes même pas éclairés sur le nombre. D'ailleurs, on dit 1,5 million, d'autres disent 5 millions, d'autres
on ne doit même pas distinguer.
Et d'ailleurs, grâce à l'action d'un certain nombre de membres de la cléricature dans l'esprit du temps, on n'a pas le droit, comme Max Gallo vient de le souligner, on n'a pas le droit dans les recensements de souligner ni l'origine, ni l'appartenance ou leur reconnaissance à une confession religieuse, etc., etc. Ce qui fait que nous avançons, enfin, l'anti-américanisme ou toute forme d'idéologie peut prospérer, enfin, l'idéologie ne prospère que dans l'ignorance.
Juste une chose, Jean-Marc, d'accord, ils ne manifestent pas contre le terrorisme, ils ne manifestent pas non plus pour, je dirais, non. Et lorsqu'il y a eu des manifestations ces derniers temps, notamment les manifestations pro-palestiniennes qu'a très bien suivi Pierre-André Taguieff, ces gens qui crient mort aux juifs, hein, maintenant, ces groupes islamistes radicaux, c'est effrayant, mais Dieu merci, pour le moment, ce n'est qu'une infime minorité. Et les mouvements qu'on aurait pu attendre et qu'on avait cru déceler au lendemain du 11 septembre de joie devant l'assassinat, l'assassinat de 3000 personnes et devant l'attaque, comme disaient les Américains, des tours du World Trade Center, n'a pas été salué par des feux de joie si importants que ça. Ce qui est c'est pour ça que c'est le peu.
Mais l'attaque n'est pas exclusivement américain. Par exemple, François Hesbourg, dans son livre sur l'hyperterrorisme, dit que c'est un nouveau style de guerre, un spécialiste des questions stratégiques. Donc, il dit que ce n'est plus du terrorisme traditionnel, si on peut l'appeler ainsi.
La guerre sans déclaration.
C'est ça.
Max Gallo.
Oui, sur le problème des immigrés et de l'islam, je trouve que les pages de Jean-François Revel sont très fortes. Il cite par exemple un reportage du Parisien Libéré que je n'avais pas lu et qui est
un des journaux
et du Parisien aujourd'hui. Enfin, je ne sais plus
le Parisien, ça s'appelle Parisien,
le plus libéré, mais pourtant il l'est, dans les faits, car c'est assez impressionnant et je crois que le poids du réel à propos de ces questions commence à écraser ceux qui voulaient le dissimuler. Car je vois par exemple cette semaine, il y a dans l'Express un numéro sur l'islam qui est intéressant, des livres paraissent sur la République et l'islam qui sont intéressants. Mais moi j'en reviens à une de mes idées que j'avais évoquée et que le problème des immigrés permet de rattraper. Parce que le livre de Jean-François Revel, au fond, sur l'anti-américanisme, aborde tous les sujets. Car l'Amérique est au centre de tout. Et ça, elle est au centre de tout, comme une réalité qui s'est imposée par sa puissance, sa créativité. Donc, placer l'Amérique au cœur d'un débat ou d'un livre, c'est en fait examiner toutes les questions de l'époque contemporaine, société, laboratoire. Alors, la question des immigrés, de l'islam, c'est vrai. La question des relations internationales, c'est celle que j'évoquais. Et sur ce point précis, trouve que Jean-François est injuste un peu avec, je dirais, avec la France. Il a une phrase que je cherchais en vain de retrouver, mais il ne me, enfin, il verra si je me trompe ou pas, dans lequel, au passage, comme ça, c'est habile comme polémiste, il dit « La politique française anti-israélienne », il y a une phrase, il y a un morceau de phrase qui est ceci, je prétends que là c'est un résumé un peu rapide de la politique française.
Ah, je ne peux pas le dire sous cette forme,
je pense que c'est aussi brutal que ça, mais je n'ai pas retrouvé. Par exemple, je ne dis pas ça, mais je prends par exemple une phrase, et je crois l'avoir écrit à Jean-François, quand il dit, pour montrer l'enracinement gaulliste, de l'anti-américanisme. Il cite cette phrase de Gaulle en 1944, les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. Et le paragraphe qui suit, Jean-François dit, quand on sait ce que les Russes ont fait de la Pologne, comment ils ne sont pas allés au secours des insurgés, et il aurait même pu ajouter, alors que les Américains ont laissé la division Leclerc venir à Paris, etc. Mais je crois que cette phrase de De Gaulle, je la fais mienne, je veux dire, dans la mesure où si les intérêts des puissances sont en cause, d'abord, ce n'est pas en des termes moraux qu'il faut juger. Ce qui était important pour les États-Unis à cette époque-là, c'était les directions d'attaque, comment abattre le nazisme. Et on pourrait faire une histoire des États-Unis, que je ne ferai pas, mais dans laquelle la dimension morale disparaîtrait, car les américanophiles passent leur temps à nouer des faveurs autour des États-Unis, on pourrait dire, mais pourquoi les États-Unis ne sont-ils entrés en guerre qu'en 1917? Pourquoi ne sont-ils entrés en guerre qu'en 1943, qu'en 1941, je veux dire? Pourquoi ont-ils laissé l'antisémitisme se développer en Allemagne? Je veux dire par là que Jean-François, on ne peut échapper à une vision idyllique et fausse de l'histoire qu'à la condition de rester dans la réalité des intérêts.
Enfin, il y a quand même un fait historique brut, c'est que les pays qui ont été libérés, les pays européens qui ont été libérés par les armées américaines, ça a été dans le but de leur restituer leur indépendance et leur liberté de construire leur propre démocratie, alors que les pays dont les soviétiques ont expulsé les nazis ont été purement et simplement annexés.
Personne ne nie ce fait, mais oui, par exemple, est-ce que le général de Gaulle était un anti-américain quand arrivant à Bayeux, il dit je ne veux pas de l'Amgott, je veux une administration française.
Il avait raison.
Voilà, il n'était pas anti-américain pour cela.
C'est autre chose que de prononcer cette énormité, de dire qu'il n'y a aucune comparaison entre la situation de la Pologne en 1965 et celle de la France.
Je suis en désaccord avec Max et je voudrais expliquer pourquoi le plus exactement possible. J'accepte tout à fait quand il dit les grandes puissances et les puissances poursuivent leurs intérêts. Mais tout est dans la définition du mot intérêt et de la relation qui entre le mot intérêt et les intérêts des autres. Alors, on parle de 1914, on parle de Wilson. Bon, mais ils sont entrés en guerre en 1917. C'était difficile, enfin, c'était un conflit européen qui ne les concernait pas directement. Wilson a dit qu'ils entraient en guerre parce qu'il y avait eu la révolution en Russie et que désormais la Russie de Kerensky était une démocratie, parce que sinon ils ne se seraient jamais alliés avec le star autocrate, ce que, pour des raisons de géopolitique, les républicains français trouvaient normal. Mais quand on prend les 14 points de Wilson, qu'on les regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il est pour le principe des nationalités. C'est la conséquence normale de l'esprit démocratique. Il est pour le libre-échange, la libre circulation. C'est aussi la conséquence normale de l'esprit libéral et démocratique. Enfin, il est contre les colonies. Bon, très bien, c'est une colonie émancipée. Bon, donc, en quoi c'est les intérêts des États-Unis? Mais il est pour l'émancipation. Et enfin, il est pour le droit international. Maintenant, prenez les 14 points de Wilson et regardez toute l'évolution du XXe siècle. Et bien, c'est la réalisation du programme de Wilson. Que ça ait coïncidé avec les intérêts des États-Unis, c'est incontestable. En quoi est-ce contradictoire avec les intérêts et les valeurs profondes de l'Europe?
Jean-Claude, je ne dis pas du tout qu'il y ait toujours contradiction. Au contraire, dans la période de la guerre froide, par exemple, il est clair que les intérêts des États-Unis coïncidaient avec les intérêts des nations européennes. C'est tout à fait évident.
Donc on ne peut pas réduire le débat.
Non, mais ça demande chaque fois une analyse circonstancielle, pragmatique. Par exemple, pour parler de l'actualité, est-ce que les intérêts de l'Europe sont pour la résolution par la voie d'une intervention militaire en Irak, oui ou non, les intérêts de l'Europe ou les intérêts de la communauté occidentale. On peut discuter de cela.
Je retournerai un peu la question. Est-ce que oui ou non Saddam Hussein est dangereux? Est-ce que le fait que pendant la guerre avec l'Iran, il ait tué à peu près 1 million de personnes est négligeable? Est-ce que le fait qu'il ait massacré 400 000 Kurdes à l'arme chimique est négligeable? Et est-ce que le fait qu'il ait envahi le Koweït en 1990 est négligeable?
Absolument.
Est-ce qu'il est dangereux? Alors, si la France trouve que c'est non, alors qu'elle le dise, si elle trouve que c'est oui, qu'est-ce qu'elle propose?
Non, je parle de mode de résolution de la crise.
Prenons ce point, vous avez tout à fait raison, Max, de le poser de cette façon. Mais le problème, c'est que la France et l'Europe n'ont pas de politique du Moyen-Orient. La France et l'Europe ont comme politique au Moyen-Orient de constater ce qui existe et d'invoquer la morale. Bon, mais éventuellement le droit. Mais premièrement, nous n'avons pas de capacité d'y intervenir. Hein, c'est très gentil, mais nous serions battus par l'armée. La France serait battue par l'armée irakienne. Qu'est-ce que vous dites?
Aussi,
vous
êtes quand même armée du monde, comme on disait en 1980.
Enfin, les puissances, la Turquie ou l'Irak sont des puissances militaires en nombre d'hommes sous les drapeaux plus importantes que la France ou que l'Allemagne. Donc, bon. Alors, nous n'avons pas de possibilité d'intervention. Et nous n'avons pas non plus de plan. Il y a eu une politique anglaise du Moyen-Orient, on peut en penser du bien ou du mal, qui est allée de 1918 à 1945-46. Il y a une politique américaine du Moyen-Orient qu'on peut beaucoup discuter. Mais moi, je voudrais que les Européens la discutent techniquement, si j'ose dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'Égypte? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des... Il y a quand même, le Moyen-Orient se définit par des régimes tyranniques, modèle syrien, irakien et pour partie iranien, et elle se définit par des régimes féodaux avec une mauvaise distribution de la rente pétrolière. Alors la prudence consiste à dire il faut faire attention, je suis tout à fait partisan d'être prudent, mais est-ce que la politique française ça consiste à dire les régimes tyranniques doivent se maintenir quoi qu'il en soit et les régimes féodaux doivent se maintenir quel qu'il en soit, si c'est ça qu'on le dise.